C'est l'été, il fait chaud et beau. Raison de plus pour continuer à tenir le micro. C'est parti pour une série très spéciale sur de jolis mots associés à cette période estivale.
Oh là là, oh là là, la chute de Mélanqui, chute de Mélanqui, juste devant Armstrong, Armstrong qui est parti dans le terrain.
Allez,
Mélanqui, là.
Allez, Romain.
C'est bon, il est en train de tous les décrocher.
Après la pierre Pesquida, après la suspension, la rédemption, Elisabeth Tardif, il va chercher une victoire de prestige au sommet du plus redouté, du mythique Vancourt. Oh, on se doit lever, Bernard. On l'avait fait à Courchevel déjà.
Aïe, attention, Philippe, le parapluie.
Oh, c'est terrible.
Gagner Roland-Garros, évidemment, c'est magnifique, c'est une magnifique récompense, oui. Mais la plus belle récompense, oui. Ça reste le Pins FR3 offert par Nelson Montfort. Écoutez.
I just want you to know because we covered all with between Antendu and FR3, we covered the whole the whole tournament. And this is FR3, the little badge FR3.
Est-ce qu'elle peut le mettre en direct?
Est-ce
qu'elle peut le mettre en direct?
On donne le petit. Oui, maybe you can put it on.
Yes, of course.
Yes.
Régis Forissier.
Do you like this?
Oh yeah.
Yes.
There you see.
Attention de pas vous piquer.
Moi j'adore la radio, je suis très content d'être là, je vous le dis.
Nous également.
Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un art qui te permet, et la fiction radiophonique et les fictions sonores, c'est un art qui te permet de fabriquer toi-même tes images à partir d'un autre sens qui est l'audition. Et la faculté d'utiliser un sens pour fabriquer un autre sens en fait par l'art du cerveau, ça je trouve que c'est une activité créative extraordinaire et très forte, et qui fait que les imaginaires qui sont issus des fictions radiophoniques ou du son ou de la musique me paraissent plus amples, plus personnels aussi et plus vivants que les imaginaires qu'on nous pose à partir d'images préconstruites.
L'émotion de la personne, elle change par rapport à l'algorithme qu'on utilise, en fait.
D'accord, donc tu mets un petit peu de tristesse, elle va commencer à elle-même s'ajuster sur la tristesse.
Elle va commencer à elle-même, en fait, devenir un peu triste, en fait. Donc évidemment, ça pose énormément de questions éthiques. Mais nous, on s'intéresse en plus à la conséquence, disons, à la recherche fondamentale qu'il y a derrière, sur la perception de soi. En fait, ce que ça montre, par exemple, cette expérience, c'est que je ne suis pas dans une émotion et je la projette au monde extérieur, mais qui est en fait une boucle de rétroaction active qui est toujours en train de capter ma propre communication pour induire l'état émotionnel dans lequel je suis.
On est des éponges, quoi.
On est des petites éponges très jolies, ouais.
Ouais, mais on peut aussi éjecter l'eau.
Tu peux avoir une émission qu'à 50 auditeurs, j'en ai rien à péter, très très clairement, parce que c'est pas le principe d'avoir. On n'est pas chez Magellan, on n'est pas chez les mecs chez Luminari, on n'est pas chez les mecs qui doivent survivre du podcast en faisant du chiffre coûte que coûte. On est une asso soutenue par nos membres, et c'est ce principe-là qui nous permet de maintenir des émissions qui ont pas 10 000 écoutes. Je pense à une émission comme Ludographie Comparée qu'on va enregistrer, on va faire en live vendredi. Ça a son public, ça a pas 10 000 auditeurs, on est d'accord. Par émission, ça a pas 100 000 auditeurs par émission, mais on en a rien à foutre, c'est un plaisir à faire.
J'espère que dans les mois, les semaines à venir, tout le monde va bien voir qu'il y a une vraie séparation entre le gratuit et le payant. D'ailleurs, ce qu'on fait dans Magellan Plus sur le payant ne ressemble absolument pas à ce qu'on a sur le gratuit, pour une raison simple, c'est qu'on va pas aller produire des contenus qui seraient payants chez nous alors qu'ils sont gratuits dans le format ailleurs. Les gens, ils sont pas bêtes.
Putain, le mec s'est transformé en théière. Ça c'est, oui, c'est une théière. Non, c'est l'homme théière.
Car non seulement il infusait du thé dans son fion, mais en plus il y avait des gens pour venir le boire à la paille derrière.
Si je devais faire du podcast en ayant regardé ce qui s'est fait ailleurs, parce que je veux me caler dans une niche, je ferais comme tous les mecs du nouveau podcast qui font des podcasts sur les masculinités, sur des podcasts narratifs où c'est toujours de l'interview narrative, et au final ta création elle n'existe pas parce que tout le monde fait la même chose, le même format, le même minutage, quasiment les mêmes sujets. C'est ça, c'est du formatage. Moi j'ai envie de lancer un podcast sur les claviers, je lance un putain de podcast sur les claviers.
C'est comme si d'un seul coup, ça éclairait les deux côtés.
Exactement, ouais.
Parce qu'il a la prise de recul nécessaire pour pointer ce qui n'allait pas des deux côtés, quoi. et les failles, et les failles, à la fois les failles systémiques, mais aussi les failles personnelles de chaque côté. C'est fort. Son témoignage est hyper fort.
Si on a une personnalité accommodante et qu'on a tendance à avaler des couleuvres plutôt qu'à se laisser ressentir ses émotions, toutes ces émotions bloquées qu'on ne laisse pas s'échapper, elles ne disparaissent pas. Elles s'entassent et un jour elles vont tellement nous peser qu'elles nous forcent à tout arrêter et qu'elles mettent le corps en HS. Et donc c'est pas sain d'ignorer notre corps, ni notre biologie, ni nos émotions. On le paiera toujours, on le paiera un jour ou l'autre.
Là je suis énervée quand même.
Tu veux taper ton poing sur la table?
Ouais. C'est un truc de libéralisme économique où on dubrise presque, où on pense que comme on a accès à tout et qu'on... Et pareil en amour, en amitié, en possession matérielle, on se dit « Ah bah je pourrais avoir mieux, donc pourquoi je garde ce truc pas terrible ?» Mais en fait ce truc pas terrible, peut-être qu'il est super et que oui ça demande du travail. Et en fait on refuse le travail, on refuse les efforts, on veut que tout soit super tout de suite. Sans effort, et c'est pas vrai, en fait, tout demande des efforts. Tout demande des efforts. Je pense vraiment qu'il n'y a aucun secret, pour rien. Si on veut qu'un truc marche, une relation d'amitié, d'amour, le travail, tout, ça demande des efforts, ça demande du labeur, ça demande de transpirer, ça demande de s'ennuyer.
John Harvey Kellogg, qui est un médecin américain ayant vécu au début du siècle dernier et qui est en partie connu pour être l'inventeur des cornflakes.
Il aurait pu en rester là.
Ouais, clairement. Il aurait mieux fait de rester au petit-déj. Parce que lui, pour le coup, sa lutte, ça a été aussi de lutter contre l'onanisme féminin, qui est donc, en d'autres termes, la masturbation et la stimulation du clitoris. Il prétend que tous les maux des femmes, notamment les cancers ou la fameuse hystérie, viennent de là. Il disait aussi qu'il ne fallait pas dépasser plus d'un rapport sexuel par mois pour des raisons de santé.
Il était rigolo, comme tout.
Alicia, et toi, ça va?
Moi, ça va.
Comment ça se passe, ces petits ateliers couture, tout ça? Tu as fait des beaux... Est-ce que tu nous as fait un beau pull TGIL ou pas encore?
Non, pas encore.
Alors on attend.
Mais par contre, j'ai commencé à vendre mes services de couturière par rapport à la dernière fois.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Du coup, tu t'es créé un statut auto-entrepreneur, tout ça, tout ça?
Non,
non, elle fait tout au black.
Ouais.
Et t'as bien... Pardon. Lily, avocate, bonjour.
Je te passerai ma carte.
Avocate dans la jeune délinquance, c'est ça?
Non mais bon, pour 4 euros l'ourlet, ça va, je vais pas me faire épingler. Les impôts... Oh,
c'est pas évident pour tout le monde.
Oui, c'est sûr, c'est la crise.
En parlant. C'est pas évident pour tout le monde, ça, c'est la crise évidemment. Ouais. Mais c'est pas évident pour tout le monde de comprendre pourquoi on a mis un an à revenir. Pourquoi on a disparu pendant un an.
Bon, parce qu'on est des feignants.
C'est une solution, mais on peut pas le dire.
D'accord.
Et ben, j'ai tapé lettre type, disparition dans Google.
Oh, bien vu.
Et là, j'ai une lettre. On n'a qu'à lire, on lit cette lettre,
okay.
Et tout le monde comprendra.
Vas-y, balance un extrait.
Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières.
Ouais, continue.
Ne regardez pas sous la terrasse, il y a un tas de gravats, ils étaient déjà là quand on est arrivé.
Très bien, bah, c'est parfait, on prend ça.
On prend ça, c'est pas mal.
Ouais, ils vont y croire, je crois que ça va marcher déjà.
Vous pouvez raconter?
Bah, c'est une horreur que je souhaite à personne, hein, de trouver quelqu'un étalé dans son entrée et tout l'appartement en derrière. Vous voyez que tout a été retourné, y compris les pots de fleurs vidés. Enfin, c'était l'horreur totale de voir cette dame étalée par terre et tout le reste. Et puis l'attente de la police, c'était pas bien non plus. Enfin bon, c'est pas des bons souvenirs.
Je suis désolé de remuer tout ça.
Pas du tout des bons souvenirs.
8h22. Franz Reichelt saute face à la scène et se tue. Le lendemain, dans les journaux, les unes titrent sur la tragique expérience. Mais tout le monde semble savoir que l'échec était inévitable. Pourquoi la préfecture a donné son feu vert? Comment la police, les journalistes, le public ont-ils pu le laisser sauter? Seule la curiosité morbide face à un spectacle digne d'une fête foraine peut expliquer cette passivité. Il n'y a qu'à lire la presse qui s'empresse de raconter la chute et d'en publier des photos, sans pudeur pour le cadavre, dont on décrit l'état et le visage ensanglanté. Telle est l'atmosphère de la belle époque, de l'invention et du spectacle. Finalement, les réponses se lisent en filigrane du lieu que l'inventeur avait choisi, la Tour Eiffel, qui trône dans Paris depuis une vingtaine d'années. Symbole de la modernité et d'une société qui encourage la course au progrès. Symbole aussi de la France, dont François Reichelt avait adopté la nationalité et qu'il voulait impressionner, coûte que coûte.
On peut entendre tout ce qu'on veut, évidemment, il faut prendre en considération les raisons du vote FN, mais quand même pas oublier une chose, on vote Front National parce qu'on n'aime pas les bougnoules. Voilà, c'est quand même ça, le premier élément du vote Front National, c'est qu'on a un problème avec les immigrés et leurs enfants, et toutes les études le montrent. Donc, on peut entendre et on peut essayer de comprendre les logiques de bouc émissaire qui se mettent en place, mais c'est pas parce qu'il y a des personnes qui votent Front National que ce que raconte le Front National deviendrait légitime.
Mais du coup, j'ai quand même un commentaire positif pour Kif Taras, parce que je voulais pas juste mettre des trucs méchants. Donc de MR, je suis blanc.
C'est positif.
J'ai un ami noir.
Il était quand même du coup.
Je suis blanc, 5 étoiles.
Je suis blanc. Et votre émission m'aide énormément à décrasser mon racisme.
Bah c'est bien, mon racisme est plus propre grâce à vous.
Merci, j'écoutais le chip avant, mais vous c'est tellement beau, bravo.
Elle est belle la France. Oh là.
Mais c'était 5 étoiles, c'est l'essentiel.
Il y a une absence de politique publique en France de lutte contre les discriminations raciales. De temps en temps, il y a des testings, tout le monde s'émeut. Oh mon Dieu, comme tout cela est grave, c'est scandaleux, tout le monde tonne. Et 3 semaines plus tard, il n'y a plus rien. Et là, nous avons, nous, interpellé les pouvoirs publics en disant, en fait, si ça existe, c'est parce qu'il n'y a pas de politique publique de lutte contre les discriminations raciales et que tant qu'il n'y en aura pas, eh bien, les choses, peut-être qu'elles évolueront au fil de l'eau, mais beaucoup trop lentement au regard des exigences d'égalité qui sont fort heureusement posées par la loi française.
On connaît mal, en fait, les gens à côté desquels on passe tous les jours.
On ne peut pas les connaître tous, ça c'est évident. On ne peut pas les aimer tous, on ne peut pas les connaître tous. Si on veut s'en occuper de certains bien, soit par goût, soit par nécessité, il ne faut pas se disperser. Si on papillonne sur des tas de gens, ça n'a pas d'intérêt. Ni pour soi, ni pour ceux vers qui on va. Donc, je fais le peu de choses que je fais, j'essaye de le faire bien, puis voilà.
Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre 5 étoiles sur iTunes et des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, Deezer et Spotify inclus. Et bien sûr, partagez et parlez-en autour de vous sans modération.
Donc il faut un petit changement de fin, un petit switch, un petit truc inattendu sur le dernier
quelque podcast. Quelque chose de marquant en fin de compte. S'il n'y a pas quelque chose de marquant sur la fin de l'Escape Game, effectivement, il y aura comme un effet flop, un goût de tiens, bah. Il manque une salle où on n'a pas eu quelque chose qui nous fait dire « Oui, on a franchi la ligne d'arrivée. »
Pour les auteurs, les séries tant vénérées sont la forme d'un monde multiple, morcelé, fragmenté, mondialisé. Tout y est liquide, fragile, se défait et se refait, entretenant la versatilité d'individus sans ancrage ni profondeur. Critiquer les séries, c'est critiquer notre époque. Jetons-les donc par les fenêtres, par saison complète. Ne regardons pas la fin de Game of Thrones. C'est bien comme ça qu'on prononce ? Écrasons les puces RFID intégrées dans les billets des musées. Retrouvons le regard critique. Retrouvons le sommeil, la contemplation et la beauté du silence.